Mais à quoi bon multiplier les commentaires et les tirades? À quoi bon détailler par le menu mes pas et mes démarches de jeune écervelé? Je dois être bref. Si j'écris cette histoire aujourd'hui, ce n'est pas pour faire joli, ni romanesque, ni émouvant, ni pittoresque. C'est pour me rassurer moi-même, comme les enfants chantent dans le noir pour se donner du courage. J'ai dû, depuis 2 ans, faire retraite, abandonner tout espoir, toute ambition, renoncer à ces promesses charnues qu'offre la vie mouvementée. Je vis en ermite forcé, en misanthrope, en philosophe malgré moi. Alors, pour étouffer les vieux regrets, pour serrer mon cœur gros, pour étrangler mes dernières illusions, je me ressasse les arguments qui militent en faveur d'une existence de repos méditatif. Et en voulant les illustrer par une œuvre d'imagination, je n'ai rien trouvé de mieux que de raconter une histoire vraie, celle de la dernière aventure du capitaine Mauvais Œil, à la fin de laquelle je fus mêlé. Les théories de petit Guillaume sur le bonheur et sur la vie, le souvenir de son désenchantement, de son inexplicable folie me servent aujourd'hui à mon tour de bouclier, de remède contre les vieux prurites d'aventure qui me démangent encore. Il faut être raisonnable. Tu as fini ta carrière, laisse-toi vivre. Tu l'as échappé belle. Ne retourne pas au risque, repose-toi, deviens plante. Telle est la réconfortante moralité, et qui m'aide à supporter un âge mûr sans horizon, que je tire de cette histoire. Comme d'autres choisiraient Ignace de Loyola ou je ne sais quel poète bouddhiste comme maître de renoncement, moi j'ai pris le capitaine Petit Guillaume. C'est moins noble, moins distingué, moins spirituel, moins éloquent, mais ça me touche mieux. C'est plus efficace pour moi. C'est plus vrai, parce que la vérité, c'est la vie, moins la poésie et moins la religion. Voilà pourquoi j'ai écrit ces pages de confidence en toute naïveté, sans style, sans plan, avec l'espoir seulement, en renforçant ma propre conviction, de convaincre quelques-uns d'autres qu'il ne faut rien attendre d'une vie livrée à la fantaisie, à l'agitation, à l'ambition. Bref, je voudrais par des exemples ni trop exemplaires ni trop romancés vous dégoûter de l'aventure, vous guérir, pauvres frères, par un récit de bonne foi, de vos dangereux désirs d'évasion. On s'évade du bagne, mais on ne s'évade pas des emmerdements de la vie, ni de son propre désespoir, même par le suicide. Le seul remède, c'est l'immobilité. Et maintenant, laissez-moi finir mon histoire. Vous pensez bien que j'ai retrouvé Olga. Je ne l'ai pas fait exprès, je ne la cherchais pas. Mais il fallait bien, n'est-ce pas, que le hasard bouclât la boucle. À l'escale de Fort-de-France, j'étais descendu à terre. En débarquant, on est accueilli par l'infinie douceur du zézément créole qui se reflète jusque dans les mœurs et le décor de la ville. Ce ne sont que sourires, ramages de négresses dont beaucoup portent encore le cotillon et le madras traditionnel. On traverse de petits ponts de bois enjambant nonchalamment des rivières qui s'appellent avec une puérile coquetterie « Rivière Mademoiselle »,« Rivière Madame ». La fameuse savane où se dresse la statue de Joséphine ressemble au mail d'une sous-préfecture française. Il y a aussi sur une colline une petite église qui singe amoureusement le Sacré-Cœur de Montmartre. Dans cette délicieuse capitale coloniale, on respire un air aphrodisiaque. Et la plus urgente nécessité, après boire un punch, c'est évidemment caresser une fille. C'est un plaisir facile à se procurer, car de la brune à la café au lait, toutes les créoles se prêtent volontiers à ce jeu agréable. Mais le touriste d'un jour, dans sa chasse rapide aux illusions, dans tous les ports du monde, commence toujours par aller prendre dans le quartier réservé le degré de fièvre amoureuse de la ville. C'est ce que je fis, et bien entendu, c'est là que je trouvai Olga. Elle était assise sur un pliant au seuil de sa case sans fenêtre. Elle était la seule femme blanche dans cette ruelle du vice. Je ne pensais pas à elle en venant dans ce quartier, et pourtant, je la reconnus à première vue. Cette pose hiératique, cette indifférence souveraine, cette pureté et cette beauté inaltérable ne pouvaient appartenir qu'à Olga Goratchkov. Sous sa chemisette rose, Elle n'avait pas l'air plus indécent ni plus nu que ne saurait l'être une statue antique afflublée du même vêtement ridicule. Elle était absente de son propre corps. Elle subissait sa vie sans la vivre. Les noirs endimanchés, les matelots, les dockers que le désir habite si vite, passaient devant elle sans s'enflammer. Ils la regardaient avec une espèce d'inquiétude curieuse, mais sans oser lui adresser la parole. Ses compagnes de prostitution, de sordides négresses criardes, qui s'accrochaient aux passants et pissaient comme des bêtes dans le ruisseau, la traitaient avec un détachement respectueux. Elle régnait, cette femme blanche, trop blanche, avec ses yeux bleus, ses cheveux de lin, ses seins encore droits, ses cuisses parfaites, elle régnait sans le savoir sur ces lieux honteux. Chaque putain avait sa petite maison, un cube de torchis rose sans fenêtre, un rideau de bambou obstruant la porte indiquait qu'un client consommait. Je restai près d'une heure à observer Olga. Pas une fois le rideau ne se baissa. Cette fille, qui, quand elle était sage, provoquait le viol, devenue prostituée, ne soulevait même plus le désir des chiens chauds. Ce sont là les trahisons banales de la chair. « Bonjour, Olga Goratchkov, lui dis-je. » Elle leva les yeux sans même qu'une flamme d'étonnement y brillât de s'entendre nommer par un étranger, et d'une voix chantante, elle me répondit seulement par la phrase traditionnelle
« Tu entres, chérie ?»
J'entrai dans sa case et le rideau de bambou tomba. Dans la pénombre, j'aperçus un lit de fer sans drap, un broc d'eau, un seau hygiénique. Au mur, épinglé, la photographie d'un boxeur nègre, rien d'autre. Alors, très vite, je fis l'amour avec Olga Goratchkov et sans dire un mot, sans lui poser une question, je m'enfuis, écœuré, bouleversé par la destinée de cette fille qui, prise dans un tourbillon d'aventure, surnageait immobile, impossible à souiller, véritable automate de la soumission. Du moins, son cas me prouvait que, quoi qu'en dise petit Guillaume, aucun renoncement ne suffit à nous protéger. Aucune inertie n'est un valable abri, si l'on ne réussit d'abord à s'ancrer en nos calmes, à se tenir à l'écart des grands courants de la vie.